grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver en ce dimanche 9 mars 2014 pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Lui, c'est Didier Molichaud Sadi. Il est docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Il est également en politique. Il est actuellement secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Docteur Didier Molichaud, bienvenue dans Grand Témoin.
Merci.
Alors avec vous dans cet entretien ou dans notre émission, nous allons vous présenter auprès des auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même dans les Maniema, votre province d'origine, et aussi à l'extérieur, à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiocapi.net. Nous parlerons de votre personne, de votre parcours professionnel, de vos débuts dans la politique. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la politique? Vous allez nous en parler tout à l'heure dans cette émission, mais commençons par une brève biographie de votre personne. Vous êtes né un certain 26 février 1959 à Kibombo.
C'est ça.
Dans le Maniema.
C'est exact.
Et c'est là où vous avez grandi?
Non, je suis resté là où j'ai fait mes études primaires, et puis après je suis allé à Kindu, le chef-lieu de la province, où je fais mes études secondaires au collège du Saint-Esprit, actuellement collège de l'Enano.
Vous avez quitté Kibombo parce qu'il n'y avait pas d'école. Donc vous pouviez faire les humanités?
Non, c'est parce que à notre époque, ceux qui étaient parmi les 5 premiers des écoles catholiques participaient aux examens pour le grand collège, qui est le collège du Saint-Esprit. Et comme j'étais parmi les 5 premiers de mon école, nous sommes allés faire l'examen et j'ai été admis à poursuivre mes études au collège du Saint-Esprit à Kindu.
Et là, c'était un internat?
Non, je étudiais en externat.
Vous avez fait quel genre d'études aux humanités?
J'ai fait les humanités scientifiques en option biochimie. J'ai fini en 1977.
Parce que vous rêviez de devenir médecin un jour?
Ça remonte à ma petite jeunesse, parce que ça, je me rappelle très bien. J'étais encore à l'école primaire. J'avais un grand ami qui est décédé malheureusement, paix à son âme. Et on était liés à un prêtre, un jeune prêtre qui venait d'arriver, il venait de la Belgique. Et ce prêtre avait la particularité, il avait sa petite boîte, quand les enfants jouaient, il se blessait, il soignait les gens. Et avec mon ami, on était très proches de ce prêtre, et on s'est taquiné, mais moi je disais à mon ami, moi je vais faire ce que le prêtre est en train de faire. Et quand je suis devenu médecin, je me suis rappelé de cette époque.
Et donc c'est ce prêtre-là qui vous a donné ce goût de la médecine?
Ce qu'il faisait, oui, plutôt... que lui le prêtre, parce que le prêtre, bon, ça, la vocation c'était de devenir prêtre, et mon ami est devenu prêtre. Moi je dis que je ferai ce que le prêtre est en train de faire. Et une particularité aussi, c'est peut-être le destin, parce qu'à notre époque aussi, quand on finissait les humanités, on remplissait les formulaires pour s'inscrire à l'université. Et nous avons rempli les formulaires et mon nom est sorti en médecine. Parce que bon, ça pouvait ne pas sortir en médecine et sortir ailleurs, mais c'est sorti en médecine et c'est comme ça que j'ai poursuivi mes études en médecine.
Et c'est comme ça que vous avez quitté Kindu pour vous retrouver à Kinshasa?
Et c'est ça, oui.
Pour faire des études de médecine à l'université
de Kinshasa.
Oui. Vous avez grandi dans quelles conditions?
Bon, une grande famille, je peux dire, parce que je suis issu d'une famille... des 12 enfants, même père, même mère.
Une grande famille, hein, comme vous l'avez
famille,
dit.
Une grande famille, 6 garçons et 6 filles, donc c'était vraiment une parité
c'était
parfaite.
C'était bien équilibré.
Oui, et mon papa enseignant, et avec ma maman, on était une famille très 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 unie. Bon, bien sûr, moi j'ai quitté la famille très tôt, à l'âge des 12 ans, pour aller étudier et faire mes études secondaires.
Et mais au moins pendant les vacances,
je rentrais en vacances. Et même pendant l'année, bon, le parent venait à Kindu et il me voyait, il visitait la famille. Et bon, quand j'ai fini mes études secondaires, je suis venu à l'université et mon grand frère, enfin mes deux grands frères étaient déjà à Kinshasa et on s'est retrouvés ici. Celui qui était avant est venu aussi très jeune parce qu'il est venu après ses études primaires, il est venu faire ses études secondaires à Kinshasa. Donc c'est quelqu'un qui avait pratiquement grandi ici à Kinshasa qu'on a retrouvé ici.
Alors lorsque vous êtes venu pour faire, pour poursuivre vos études à Kinshasa, c'était la première fois d'arriver dans la capitale?
Oui, c'était la première fois que j'arrivais quand je suis venu pour mes études.
C'était quoi vos premières impressions lorsque vous avez foulé le sol de Kinshasa?
Bon, une grande ville. Bon, mais bon, l'avantage que j'avais, c'est que je suis arrivé dans une famille où j'ai trouvé l'encadrement, j'ai trouvé mes frères ici. C'est une grande ville. Bon, la différence, elle est là. Vous sentez que vous venez d'un milieu comme Kindu et vous arrivez à Kinshasa, c'est déjà très, très, très différent. Mais comme je l'ai
C'était quoi la grande différence, à part le fait que ce soit une très grande ville?
Je peux dire, il y a d'autres facilités. Hein. Par exemple, à Kinshasa, l'électricité, l'eau, le transport, d'autres facilités d'un milieu urbain qu'on n'avait pas à Kindu. À Kindu, à cette époque, quand on terminait, bon, l'électricité n'était pas partout, n'était pas permanente. Bon, l'eau courante, bon, il y avait des bornes fontaines, il n'y avait pas d'eau dans chaque maison, là où moi j'ai grandi. Et ici à Kinshasa, on avait de l'eau à la maison, on avait de l'électricité. Bon, pour se déplacer, on pouvait prendre un moyen de transport. Oui, c'est ça.
Vous avez grandi dans des bonnes conditions, mais vous-même, vous étiez quel genre d'enfant?
J'aimais bien m'amuser avec mes amis. D'ailleurs, je garde encore des relations avec mes amis de l'école primaire. On s'amusait bien, on jouait.
Enfant turbulent, timide?
Un peu taquin. À l'école, c'était un peu taquin, oui.
Et quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant votre jeunesse? Il y en a beaucoup sûrement.
Sur le plan personnel ou
bien sûr, sur le plan personnel.
Bon.
Ça vient pas?
Non.
Bon, c'est pas grave. Et donc, arrivé à Kinshasa, vous avez obtenu votre diplôme de docteur en médecine en 1985.
Oui.
Et puis, un certificat de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique en 87.
Oui.
C'était une spécialisation.
Oui, c'était une formation. Parce qu'en fait, quand j'ai fini la médecine, bon, ça aussi, c'est une particularité. Parce que je le dis avec plaisir, on a proclamé les résultats un samedi. Et le lundi, je me rendais aux cliniques universitaires. Et un de mes enseignants, en me félicitant, il m'a dit, ben, voilà, tu peux venir travailler avec nous. Le mardi, j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai terminé un samedi et le mardi, j'étais dans le monde professionnel. J'ai commencé à travailler.
Donc, n'avez pas eu du mal à trouver de l'emploi?
Non, non. Moi, je peux dire, samedi proclamé, mardi, j'étais au travail.
Ce qui n'est pas le cas actuellement. Oui. Il faut attendre des années.
Bon, comme j'ai eu cette chance-là, et vous savez, en médecine, pour pratiquer, il faut être inscrit au tableau de l'ordre. Et mon encadreur m'a demandé de travailler avec eux. Il a fait les démarches, ce qui fait que j'étais inscrit au tableau de l'ordre dans la semaine qui suivait ma proclamation. Et j'ai commencé à travailler dans un environnement d'une clinique privée où travaillaient des professeurs et des spécialistes. Et c'est en travaillant là-bas que j'ai été aussi contacté par un autre professeur qui m'a intéressé à la médecine tropicale, particulièrement la maladie du sommeil. Et c'est comme ça que je me suis engagé à travailler dans la lutte contre la maladie du sommeil.
Qui n'existe plus en RDC?
Elle existe encore, mais...
Ah bon, dans quel coin?
Oui, ça existe à l'Équateur, au Kasaï, au Bandundu, au Maniema, au Bas-Congo. Dans la lutte contre la maladie du sommeil, ils avaient besoin de quelqu'un qui devait s'orienter vers l'épidémiologie. C'est comme ça que très tôt, on va m'envoyer à Anvers pour une formation pratique en épidémiologie et biostatistique à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers.
Vous avez suivi aussi des formations à l'OMS en Suisse?
Oui, j'ai été au centre de recherche d'immunologie, vaccinologie et biotechnologie de Lausanne en Suisse où j'ai fait une formation qui a été sanctionnée par un certificat en immunologie et biotechnologie en 1991.
Et toujours dans le cadre de l'OMS, vous étiez à Banjul, en Gambie, toujours pour une formation?
Oui, dans le cadre de la lutte contre la maladie du sommeil, on organisait des formations pratiques dans différents pays africains et bon, là, j'ai eu à participer à cette formation qui était organisée à Banjul, en Gambie.
Finalement, vous avez décidé de faire un master en santé publique.
Oui, pour formaliser toute mon expérience, parce que vous savez, la formation en santé publique, c'est une formation professionnelle. Pour formaliser toute mon expérience, j'ai fait ce master en santé publique en Verse avec comme orientation organisation des services de santé.
Alors Didier Monlichou, vous êtes marié?
Oui, marié, père de 4 enfants.
Radio Capi, grand témoin.
Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Didier Monlichou Sadi. Il est docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Il est également en politique. Actuellement, il est secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. On va parler de vos débuts dans la politique. C'est quand que vous avez eu ce goût de vous lancer dans la politique?
Peut dire que à l'université déjà, bon, s'il faut parler politique, à l'université déjà il y avait des organisations des étudiants. Et, bon, des organisations des étudiants ressortissants de telle province ou de telle autre province. Et là, j'étais déjà dans les comités d'organisation des étudiants. Et ces organisations permettaient aussi de militer pour l'élection des dirigeants estudiantins. Et là, je peux dire que bon, c'était déjà les débuts de la politique comme un exercice pour s'occuper du grand nombre, pour défendre les idées d'un groupe. Et je peux dire que ça remonte déjà à l'université.
Donc, depuis l'université, est-ce que vous avez dirigé une organisation estudiantine?
Non.
Vous avez fait juste partie de ces organisations?
Je n'étais pas membre de la jeunesse estudiantine comme il y en avait à l'université, mais j'étais responsable des étudiants du Maniema, mais j'étais aussi délégué de cours au niveau de promotion universitaire. J'ai été pendant 2 années délégué de cours comme responsable, enfin, ou bien, je ne sais pas moi, un dirigeant au niveau de la promotion. Et bon,
mais ça, là, c'était pas de la politique.
Moi, je pourrais dire que c'est ça la vraie politique.
Comment ça?
Parce que bon, quand on est dirigeant, on doit défendre les intérêts des autres étudiants. On doit discuter de problèmes d'autres étudiants. Et ça, je me rappelle encore, quand on était en premier doctorat, il y a eu des problèmes. Un professeur qui s'est absenté le matin pour son examen et qui a voulu sanctionner tous les étudiants. Bon, les délégués des cours devaient discuter avec les doyens de la faculté de médecine pour dire que les étudiants étaient là, c'est le professeur qui n'était pas là. Donc, comme le professeur n'était pas là, les étudiants avaient d'autres examens, ils devaient aller pour d'autres examens. Et je pense que pour moi, c'est ça la politique, c'est défendre des idées, parce que là, bon, on a défendu des idées. Un professeur, c'est pas parce qu'il est professeur qu'il peut user.
Et là, c'était pas pour un très grand nombre, c'était juste pour les étudiants. Mais la politique active, vous l'avez commencé quand?
Oui, ça c'est en 2003-2004. J'ai eu des discussions assez suivies parce que dans l'entretemps, en 1995, j'étais préoccupé par la situation sanitaire du Maniema. Et à cette époque, j'ai fait une tournée parce qu'on a mis en place une structure avec des amis belges et congolais qui étaient préoccupés par la situation sanitaire au niveau du pays. Et là, on a mis en place un groupe de réflexion et d'information sur la santé au Maniema. J'étais le coordonnateur de ce groupe. Ça m'a donné l'occasion d'organiser des rencontres avec les hommes politiques et les gens de tous les horizons de la province du Maniema.
La société civile, les ONG.
C'est ça. Et on organisait ces rencontres. Et là, j'avais l'occasion de rencontrer des hommes politiques du Maniema et qui ont eu à me découvrir pendant cette période. Et après, quand le processus avec le changement de régime, l'arrivée de Mzé Laurent Désiré Kabila et l'évolution vers la démocratisation. Vers les années 2003, on a commencé à réfléchir sur comment travailler dans le sens d'améliorer. Parce que bon, nous on travaillait dans une organisation qui était proche de la population et on s'est rendu compte qu'il y avait des préoccupations par rapport à l'action publique. Et cette action publique est menée par le politique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à discuter avec c'est lui qui est devenu aujourd'hui le président de mon parti. Et on parlait, lui aussi venait de la société
Vous
civile.
Vous parlez de Pierre Lumbi.
Exact. Lui aussi venait de la société civile. Alors, il me disait, oui, il faut que tu t'intéresses à la politique parce que tu as quelque chose à donner. Alors, je m'ai trouvé...
Mais est-ce que vous-même, vous vous sentiez prêt à vous lancer dans cette politique active?
Oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'étais en mission et puis on a sorti la liste. Bon, je préfère le dire aujourd'hui. On a sorti la liste des fondateurs du PPRD. Il y avait 123 noms. Et mon nom était parmi ces gens-là. Bon, je n'ai pas été contacté, je me suis retrouvé là-bas. Alors j'ai discuté avec mon président actuel, Pierre Lumbi, sur ça. Moi j'ai dit, mais bon, comment est-ce que moi je vais être dans un parti politique? Je ne me sens pas engagé comme ça. Et puis bon, on n'a pas consulté. Et il m'a dit, oui, mais il faut que tu réfléchisses. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir avec lui dans un mouvement qu'on appelait le mouvement social pour le renouveau. Enfin, d'abord mouvement social qui est devenu mouvement social pour le renouveau.
Comme un mouvement social, c'était pas encore un parti politique.
Non, c'est devenu parti politique la veille des élections de 2006.
Pourquoi vous avez mué ce mouvement social en parti politique?
Parce que la loi électorale ne permettait pas aux indépendants de se présenter comme groupe. Et c'est pour cette raison que, bon, on ne pouvait pas se présenter comme candidat du mouvement social. Et on s'est présenté comme parti politique, mouvement social pour le renouveau.
Vous nous avez raconté une anecdote ici par rapport à votre nom qui s'est retrouvé sur la liste des fondateurs du PPRD.
Oui.
Mais est-ce qu'on a corrigé cette erreur ou bien vous avez laissé passer?
Bon, je n'ai pas réagi par rapport à ça. Je n'ai pas participé aux activités du PPRD, mais je me suis retrouvé dans un parti politique qui est proche du PPRD, parce que bon, l'initiateur du PPRD et l'initiateur du MSR se trouvant à être la même personne.
C'est deux personnes différentes, non?
Non.
L'initiateur du MSR, je sais que c'est Pierre Lumbi et le PPRD, c'est Joseph Kabila.
J'ai dit que l'initiateur du MSR et du PPRD étant la même personne.
Ok, d'accord. Et donc, à la veille des élections de 2006, votre mouvement social s'est mué en parti politique. Vous avez été élu?
Oui, en 2006.
En 2006,
oui.
Comme député national?
Oui, dans la circonscription électorale de Kassongo.
Dans le Maniema?
Le Maniema, oui.
Et pendant cette législature, vous avez été président du groupe parlementaire MSR.
Oui, à l'Assemblée nationale.
Vous avez eu combien de députés?
En 2006, le MSR avait 26 députés. Mais notre groupe parlementaire comptait 32 députés parce qu'il y a eu des députés d'autres partis qui nous ont rejoints. C'est comme ça qu'on a appelé ces groupes parlementaires MSR et alliés. Il y a eu quelques alliés.
Alors, vous avez été élu facilement?
Comme président d'un groupe parlementaire.
Non. Élu député national facilement à Kassongo, parce que vous êtes basé à Kinshasa, non? Est-ce que vous alliez souvent à Kassongo?
Oui,
vous
oui.
Vous aviez souvent des activités là-bas?
En fait, la particularité de mon travail, c'était que je travaillais dans l'organisation belge Fometro. Fometro, c'est une organisation qui appuyait les activités sanitaires à travers le pays. Donc, j'avais des responsabilités au niveau de l'ensemble du pays dans cette organisation. Et au Maniema, nous avions des activités. Et à Kassongo, j'ai relancé les hôpitaux qu'on appelle, l'organisation qu'on appelle les zones de santé du sud du Maniema en 1997. J'étais le coordonnateur médical de l'action de relance des activités sanitaires au sud Maniema. toutes ces activités m'ont permis d'avoir un contact permanent. Même quand il y a eu la guerre, quand le pays était divisé entre la partie est occupée par les RCD et l'autre partie gouvernementale ici, moi je pouvais aller avec mon statut d'international, aller au Maniema. Ce qui fait que la population a gardé tous ses souvenirs de tous ces contacts, ces appuis que j'apportais. Je me battais pour que le Maniema et en particulier le Sud Maniema aient toujours un appui dans le système de santé.
Je veux revenir sur votre présidence du groupe parlementaire MSR en 2006. Pourquoi vous et pas une autre personne?
Pourquoi moi pas une autre personne? Bon, je pensais que je pouvais apporter ma petite expérience dans la direction de ce groupe. Et bon, je ne peux pas parler de moi-même, mais si on pose la question aussi bien aux collègues députés du MSR de la législature qu'à d'autres collègues députés de la législature, je pense qu'ils ont apprécié mon action comme président du groupe parlementaire du MSR.
Et en 2011, vous avez été réélu?
Oui. En 2011, réélu tout simplement parce que j'ai gardé les contacts avec la population et au niveau du MSR, en fait, l'idée c'était de faire de sorte que les gens fassent la politique autrement. Faire la politique autrement, c'est-à-dire que le politicien soit proche de la population pour porter réellement les préoccupations de la population. Et au niveau du MSR, nous avons deux piliers de notre parti, c'est le leadership du politicien et les contrats sociaux. Nous faisons la politique sur base d'un contrat que nous prenons avec la population. Et ces contrats, vous ne pouvez l'élaborer que si vous avez un contact permanent avec la population.
Alors, cette même population se plaint du fait que leurs élus n'ont même pas le temps de descendre sur terrain, écouter les préoccupations de la population qui les a élus, on les ignore carrément.
Les élus du MSR sont très proches, proches vraiment de la population.
Et à chaque vacances parlementaires, vous descendez à Kasongo?
Si, moi, si je n'ai pas d'empêchement, parce que mes responsabilités au niveau de la majorité avec les différentes activités réduisent ma disponibilité pendant les vacances pour descendre, mais je regarde un contact permanent avec ma base.
En parlant de la majorité, vous êtes secrétaire général adjoint de cette plateforme. C'est parce que les députés de la majorité ou tous ceux qui font partie de la majorité présidentielle vous ont fait confiance pour qu'on vous donne cette fonction?
Non, ça c'est la décision de l'autorité morale de la majorité présidentielle. C'est dans son pouvoir discrétionnaire qu'il désigne le secrétaire général et son
que
adjoint.
Que vous voulez ou pas, là, quand l'autorité morale décide, c'est décidé.
Non, mais je suis membre de la majorité, comment je peux ne pas vouloir? Si l'autorité morale estime que parce que bon, la charte de la majorité dit clairement que le secrétaire général et son adjoint doivent être des élus. Si l'autorité morale estime que vous pouvez donner quelque chose à la famille politique, mais pourquoi pas, c'est comme
c'est
ça
que... C'est parce que le MSR est le deuxième grand parti après le PPRD au sein de la majorité.
Oui, c'est exact. C'est un des critères, mais c'est pas les critères exclusifs, parce que l'autorité morale peut désigner quelqu'un qui vient d'un parti qui n'est pas le deuxième. Mais les principes, c'est celui-là, c'est de respecter les poids politiques de partis politiques. Et il s'est fait que le MSR, aussi bien pendant la législature passée que pendant cette législature, est toujours le deuxième parti politique de la majorité présidentielle en termes de poids politique.
Vous vous sentez bien en tant que secrétaire général adjoint de la majorité?
Oui.
Vous êtes à l'aise à ce poste?
Bon, à l'aise, oui, je peux dire que je suis à l'aise parce que j'apporte ma contribution dans l'édification de notre famille politique. Et le plus important, c'est de faire ce que nous devons faire.
Et, c'est-à-dire quoi faire, ce que vous devez faire?
Bon, comme un secrétaire général adjoint de la majorité, j'ai des attributions qui sont définies par la charte de la majorité présidentielle.
Entre autres?
C'est assurer l'administration au niveau du secrétariat général de la majorité, assurer le secrétariat.
Donc vous êtes beaucoup plus dans l'administration.
Le secrétaire général adjoint de la majorité s'occupe beaucoup plus de l'administration au niveau du secrétariat général. Je participe à toutes les réunions du bureau politique de la majorité présidentielle, qui est l'instance des décisions et d'orientation de la majorité. Je suis secrétaire du bureau politique de la majorité présidentielle. Oui.
Aujourd'hui, est-ce que vous vous dites que vous avez fait le bon choix en devenant en politique?
Oui, je peux dire ça, parce que à la fin de la première législature, je me posais des questions, est-ce que je continue ou j'arrête?
Pourquoi?
Parce que, au début, quand on vient en politique, on vient de la société civile où on voit les résultats de son action. Quand vous menez une action, vous voyez des résultats. Mais en politique, la particularité, c'est que, bon, vous pouvez ne pas voir les résultats de votre action parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne des comptes. Et à un certain moment, bon, on se posait des questions. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ou on arrête? Mais nous nous sommes dit au niveau de notre groupe que nous devons continuer. Et je pense que nous ne nous sommes pas trompés. Nous pensons que ce pays a besoin des hommes et des femmes qui ont un profil comme celui de politiques qui sont dans le MSR, parce que c'est des gens qui ont une expérience professionnelle et qui sont proches de la population et qui peuvent apporter quelque chose au niveau du pays, parce que idéologiquement, la conception du pouvoir est une conception d'un pouvoir-service.
Et vous pensez que la majorité présidentielle, depuis 2006 jusqu'à ce jour, a apporté quelque chose de positif au pays?
Oui, je pense que le régime actuel, s'il faut parler ainsi, a beaucoup apporté au pays. Parce que vous savez que la tenue des élections, remettre le pays dans un cycle électoral, c'est-à-dire remettre le pays dans une démocratie, donner le pouvoir au peuple, c'est un acquis très important et qu'on peut mettre comme acquis de la majorité actuelle. Les grands travaux, parce que vous voyez, au niveau de notre pays, la plupart de gens avaient oublié qu'on pouvait faire des grands travaux. Donner l'occasion au pays de se transformer, c'est un grand acquis. Et aujourd'hui, au niveau du gouvernement, avec tous les acquis sur le plan économique, la stabilisation du cadre macroéconomique, la stabilisation de la monnaie, même si le budget n'est pas encore très important, mais l'utilisation rationnelle des ressources, c'est vraiment des acquis. Je sais qu'il y a encore des choses à faire, mais en tout cas, la majorité actuelle a le mérite au moins de mettre le pays dans le bon chemin. Il y a des choses à parfaire sur le plan du processus électoral, il y a des choses à parfaire sur le plan de la gestion, de la gouvernance, mais au moins on peut se targuer de dire que nous avons remis le pays sur la bonne voie.
Alors Didier Molichon, on va souffler un peu. Comment vous passez vos moments de détente?
Je fais beaucoup de marches. En tout cas, il y a des semaines où je fais presque tous les jours une marche de 1h, 1h30. Et puis, je lis beaucoup.
Pour garder la forme.
Oui, et puis je lis beaucoup.
Vous arrivez aussi d'écouter la musique?
Oui, oui.
Quel genre de musique?
Oui, j'aime écouter la musique congolaise.
De qui, par exemple?
Rochereau. J'aime écouter la musique de Rochereau.
Quelle chanson?
Oh.
Un titre qui vous vient à l'esprit?
Kélia, par exemple.
C'est pas moi. D'accord, on va vous faire plaisir en vous proposant la chanson Kélia de Rochereau Tabouley.
Na bomise la pola baninga e Lelo na butunga na banzi na loti pe na bongoi Na kabeli ya wanga imotema Elenge kito koyo jalie
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
L'invité de Grand Témoin aujourd'hui s'appelle Didier Molicho Sadi. Il est docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Il est en politique congolais et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. On va parler actualité. Didier Molicho, vous le savez, comme tous les Congolais, il y a la SENCO qui a fait une déclaration par rapport à la feuille de route présentée par la CENI concernant les cycles électoraux 2013-2016. Elle se dit préoccupée par le dépassement du mandat des députés provinciaux et des sénateurs, ainsi que la crise des légitimités observées dans les entités territoriales et urbaines. Elle propose la tenue des élections provinciales au premier trimestre 2015.
On va écouter l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de l'ASENCO, à ce sujet.
La première demande, c'est faire vraiment l'apurement de ce qui restait encore des élections de 2011, notamment au niveau des députés provinciaux et des sénateurs. Les évêques sont préoccupés par ce mandat qui perdure. Les évêques disent que l'option ou l'hypothèse des élections au niveau provincial ou même au niveau municipal, au niveau urbain et local au suffrage indirect n'est pas de nature à consolider notre démocratie. On connaît aussi à ces niveaux, si on organise des élections au suffrage indirect, le risque de manipulation, de corruption est grand. Alors les évêques demandent que les élections élections au niveau municipal, urbain, local se fassent par suffrage direct. Ceci, d'abord pour consolider notre démocratie, mais aussi pour permettre à la population, au souverain primaire, d'exercer son droit reconnu par la Constitution. Alors, les évêques en appellent à la volonté politique pour la réussite totale de ces élections dont dépend l'avenir de notre pays.
Votre réaction par rapport à cette proposition de la SENCO?
Bon, moi je pense que elle ne s'oppose pas aux hypothèses qui ont été avancées par la CENI quand le président de la CENI est passé à l'Assemblée nationale. Je pense que le président de la CENI a émis un certain nombre d'hypothèses qui tenaient compte de contraintes. Parce que vous savez, organiser les élections, il faut obtenir un consensus sur le plan des acteurs qui vont vers les élections. C'est tout le travail que la CENI est en train de faire, les consultations avec le parti politique, les organisations de la société civile. Et il faut avoir un corps électoral qui puisse être exempt de source de tricherie. Parce que vous savez, tous les problèmes du fichier électoral. Et le président de la CENI a annoncé sa préoccupation de vraiment fiabiliser les fichiers électoraux. Et il faut avoir des moyens pour organiser les élections. C'est tenant compte de ces différents éléments que le président de la CENI est passé à l'Assemblée et a émis des hypothèses. Et parmi ces hypothèses...
Les deux hypothèses de la Constitution, selon certains experts et même selon l'opposition.
Non. Quand le président de la CENI émet des hypothèses en tenant compte des contraintes, il en appelle à ceux qui doivent prendre des décisions. Parce que ce n'est pas le président de la CENI qui va changer la Constitution. Il ne peut même pas violer la Constitution parce que ce n'est pas dans son pouvoir de changer la Constitution. Le mécanisme pour la modification de la Constitution sont connus. Lui, il a émis des hypothèses en disant, voilà, vous m'avez donné une responsabilité pour vous organiser des élections. Mais pour que les élections soient organisées, il faut un consensus entre les acteurs. Il faut un fichier électoral qui est bien fiabilisé et il faut des moyens pour organiser les élections. Alors, si on veut organiser les élections, par exemple en 2014, qu'est-ce que nous faisons? Voilà les hypothèses qu'il a avancées en disant, ok, les élections ont un coût. Si on doit épurer les arriérés, et l'arriéré des arriérés, c'est les élections locales, municipales et urbaines. Alors, nous devons commencer par l'arriéré des arriérés. Et si nous organisons l'arriéré des arriérés et que nous devons organiser les élections provinciales, voilà les coûts. Et il a expliqué la difficulté à combiner les élections locales et les élections provinciales. Donc, il faut les organiser séparément. Et si on les organise séparément, il y a un coût. Et c'est comme ça qu'il a émis les hypothèses. Et
donc, la dernière décision revient aux députés, aux parlementaires.
Oui, la décision revient à l'ensemble des acteurs. Parce que lui, il met devant tout le monde les problèmes en disant, nous avons besoin de l'argent pour organiser ça. Si l'argent est là, il n'y a pas de problème. On va organiser les élections telles que les textes actuels les prévoient.
Parce Alors, que... vous qui êtes de la majorité présidentielle, en plus secrétaire général adjoint, est-ce qu'il y a l'argent pour organiser les élections?
Bon, nous connaissons le budget de la République et nous connaissons les contraintes à s'occuper des problèmes de la population. Parce que la démocratie, c'est pas seulement mettre tout l'argent pour organiser les élections. Il faut aussi penser à l'amélioration des conditions de vie de la population. La démocratie, c'est aussi avoir une justice. La démocratie, c'est aussi avoir une administration. La démocratie, c'est aussi avoir... les piliers de la République, on doit y travailler. On ne doit pas se dire tout l'argent on met pour organiser les élections. Le gouvernement est en train de faire des efforts pour dégager des ressources pour organiser les élections, mais il faut qu'il y ait un équilibre dans l'utilisation des ressources.
Alors, Didier Molichon, un mot sur cette pétition initiée par la coalition politique souvent la RDC. C'est une plateforme de l'opposition qui demande la démission du président de la CENI parce qu'elle lui reproche d'avoir un parti pris et de pencher pour la majorité présidentielle. Rapidement.
Bon, moi, je pense que nous sommes dans un pays démocratique où les gens sont libres d'émettre leur point de vue. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que les gens doivent avoir le courage de discuter avec les gens. Parce que c'est très facile hein, de dire on commence une pétition, on va au coin de la rue, on donne des papiers à signer aux gens. Les gens qui signent les papiers, il faut prendre le temps de faire comprendre aux gens pourquoi ils doivent signer une pétition, pourquoi ils veulent...
Vous pensez qu'ils n'ont pas fait ça?
Bon, moi, à ce que je sache, bon, moi je fais partie aussi de la communauté congolaise. Je n'ai vu personne pour venir me parler de ça.
Mais vous êtes la majorité, est-ce que vous pouvez signer une pétition contre le président de la CENI?
Non, je suis congolais. Si les éléments, les arguments qu'ils avancent sont des arguments convaincants, mais pourquoi pas? Ils peuvent pas dire que ils vont seulement obtenir des signatures des gens. L'élection, c'est quelque chose qui ne doit pas nous mettre entre opposition et majorité. C'est l'erreur qu'on est en train de commettre. Je pense que nos amis devaient avoir le courage de venir poser les problèmes. Le problème, il est où? Parce qu'il faut pas toujours revenir. Et c'est ça les défis que nous devons relever en faisant la politique. Faisons la politique des idées, mais faisons pas la politique des personnes. Parce qu'ici, on voit, telle tête de telle personne ne me plaît pas. On commence une pétition pour que cette personne-là parte. Mais on ne donne pas les raisons valables. Aujourd'hui, depuis que l'équipe actuelle de la CENI est arrivée, elle s'est attelée à essayer d'obtenir un consensus sur le processus électoral. Et s'est attelée à chercher des voies et moyens pour fiabiliser les fichiers électoraux. Qu'est-ce qu'on attend d'autre d'une équipe de la CENI?
Alors merci Didier Molichon, nous sommes, le temps passe très vite, nous sommes malheureusement à la fin de notre entretien, mais avant de nous quitter, un mot à tous ces auditeurs qui nous suivent partout en RDC, particulièrement dans votre fief électoral ou dans votre province du Maniema.
Moi, je dirais d'abord merci pour l'occasion que vous m'avez donnée de parler plus ou moins de ma vie. Et je pense que mon engagement politique tient à une chose, c'est vouloir servir mon pays. Et on ne peut réellement servir son pays que si on aime son pays. Et moi, je peux affirmer que j'aime réellement ces pays. Et on ne peut aimer réellement son pays que si on les connaît. Moi, je connais ces pays. Donc, je connais le Congo par mon travail professionnel et j'aime ces pays et je suis prêt à les servir.
Une petite question, là, rapidement. On dit que les cadres ou ceux qui sont au pouvoir, ressortissants du Maniema, ne font pas beaucoup pour leur province. Pas d'infrastructure, rien du tout. C'est vrai?
C'est pas vrai parce que, vous savez, les ressortissants du Maniema ont une caractéristique. C'est que quand ils arrivent à une fonction publique, ils agissent d'abord comme Congolais. Et puis, le Maniema bénéficie comme toutes les autres provinces. Aujourd'hui, par exemple, le Premier ministre qui est au pouvoir, il est originaire du Maniema. Il agit d'abord comme Congolais. Et pendant qu'il est au pouvoir, le Maniema a bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures.
Alors, vous ne commencez pas par vous servir vous-même, vous servez d'abord la
République. On sert la République d'abord, et ça, c'est la grande caractéristique du Maniema.
Merci Didier Molichon, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Vous êtes homme politique et secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Merci à Alain Goy qui était à la mise en onde de micro, Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radio.okapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.